Bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais d'abord remercier infiniment Myriam d'avoir organisé ce débat. La remercier aussi d'avoir permis à Asia aussi d'expliquer sa position, parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est très grave. Et je pense que voilà, il fallait le poser dès le départ. Donc merci à toi. Merci aussi de ton invitation. Mon intervention va porter sur trois points. D'une part, une présentation brève du groupe Lesbian of Color, mais j'aurais tendance effectivement à dire LOX pour aller plus vite. Et puis le deuxième point portera sur les deux idées principales qui ont abouti à la création du groupe LOX. Et je vais finir avec le troisième point qui va porter sur la maudite affiche de l'inter-LGBT et toute l'action qui a été menée autour de cette affiche. Et si j'ai un petit peu de temps, aborder une action de visibilité lesbienne, Lesbian of Color et lesbienne politique, qui s'était intitulée le RAL, le Rassemblement d'Action Lesbienne, le 25 juin dernier, RAL comme ras les ovaires, ras le bol de cette société sexiste, lesbophobe, classiste, etc. Alors, le groupe Lesbian of Color a été créé en 2009 par un groupe de lesbiennes d'origine immigrée et immigrante. Je vais vous citer les cinq personnes qui ont cofondé ce groupe. Il s'agit donc d'une afro-américaine française, d'une indienne, d'une séchelloise, d'une guadeloupéenne et moi en tant que djiboutienne. Ensuite, en janvier 2010, dans le but de renforcer... Et en 2010, dans le but de renforcer la visibilité du groupe LOX, on a mis en place un site internet qui s'appelle l'espace d'expression Lesbian of Color. La notion d'espace et la notion d'expression étant très fondamentale dans la création de ce groupe. Le groupe se définit comme un groupe autonome, non mixte, qui rassemble des lesbiennes qui se retrouvent par leur parcours migratoire, par leur parcours d'exil, par leur histoire liée au colonialisme, liée à l'esclavagisme, par leur expérience du racisme, de l'invisibilisation, dans les milieux féministes ou lesbiens et dans les milieux LGBT en général. Par conséquent, le groupe LOX ne fait pas partie de l'inter-LGBT ni d'aucun autre collectif féministe et lesbien et reste attaché à une autonomie pleine et entière. Je pense qu'il est important de pour un groupe qui revendique effectivement sa position of color d'un petit peu voir quelles sont finalement les deux principales idées qui ont abouti à la création de ce groupe et par-delà ces idées-là, comprendre aussi justement comment on arrive à articuler ce qu'on appelle l'intersectionnalité des oppressions. La première idée, c'est un constat, une espèce de ce que j'appelle moi une expérience contradictoire d'inclusion et d'exclusion au sein des milieux LGBT et féministes lesbiens en particulier. A priori, en tant que lesbienne, on est amené à rejoindre des espaces féministes lesbiens parce que on part du principe que ce sont des espaces qui puissent nous ressembler, qui puissent nous rassembler. Or, force est de constater que ces milieux que nous pensions favorables à la diversité, à l'altérité, à l'ouverture d'esprit, affranchis de toute oppression, eh bien, nous subissions l'exotisme, des attitudes maternalistes, et parmi les gays, une tendance paternaliste, parce qu'on était aussi dans le milieu en général LGBT, et que nous sommes là, mais on ne nous voit pas. Autrement dit, on est dedans, sans pour autant exister. Le deuxième facteur qui, à mon sens, aussi explique cette expérience contradictoire d'inclusion et d'exclusion, c'est l'approche de la lutte qui diffère complètement. Les luttes au sein des associations et aux groupes lesbiens relèvent de ce qu'on a vécu, d'une lutte hiérarchisée. Homophobie, lesbophobie, droits des femmes, violence aux femmes. Ce qui est très bien, bien évidemment. Ce qui est très bien. Ça fait partie aussi de nos luttes, nous, en tant que lesbiennes of color, puisqu'on est discriminés et d'un point de vue lesbien et d'un point de vue femme. Simplement, cette hiérarchie de la lutte relègue au second plan ou occulte la question of color et les facteurs qui la sous-tendent, les rapports sociaux, de race, de classe, dans la société en général. Cette vision de la lutte est donc pour nous très réductrice par rapport à notre approche d'activistes lesbiennes of color, car nous vivons ces oppressions imbriquées et à moins de choisir entre son identité of color ou son identité lesbienne, autrement dit, pour nous, ça posait quand même un certain problème parce qu'on ne se reconnaissait pas finalement dans cette lutte-là. Nous, on n'avait pas à faire un choix entre lesbiennes of color ou tout simplement notre identité lesbienne, sans pour autant penser à tout ce système d'imbrication, de racisme et de rapport de classe. Donc, ce qui nous posait un problème au niveau de cette hiérarchie, c'est que elle était quasi exclusive au fait. C'est vrai que quand on voyait par exemple des groupes tels que la Barbare ou des groupes tels que la CLF, etc. Bon, je reviendrai après sur ces deux structures parce que il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses qui ont évolué. Mais c'est vrai que cette hiérarchie de lutte, pour ne pas dire cette lutte quasi exclusive, laisse presque systématiquement de côté les rapports sociaux de race et de classe, alors qu'il nous faut lutter, et c'est ce qu'on a essayé de faire comprendre à d'autres groupes féministes et lesbiens, c'était justement de lutter contre tout un ensemble de mécanismes d'oppression, d'exploitation, pour en neutraliser les effets. Pour nous, l'Ox se consacrait à un seul type de rapports sociaux de sexe, renforcer d'autant une vision fixiste et monolithique de la lutte sans modifier le fond du problème. La preuve, nous sommes aujourd'hui ici dans un débat qui interroge justement la lutte intersectionnelle et on se pose toujours cette question du racisme dans la société française en général et puis dans les milieux LGBT, forcément dans des milieux dans lesquels on évolue. La preuve aussi qu'en 2011, nous, l'Ox, on dénonce toujours l'adhésion de certaines féministes et de certains LGBT, pas la peine de les nommer, mais bon, de certaines féministes et certains LGBT au discours raciste, xénophobe et islamophobe, décomplexé, et la récupération de certains et certaines d'entre eux par les partis d'extrême droite et les partis populistes. Mais je reviendrai sur ce point quand j'aborderai le sujet de la fiche maudite. Autre élément rageant qui conforte aussi cette expérience contradictoire d'inclusion et d'exclusion, c'est que très souvent on avait tendance à parler à notre place ou à nous ignorer et que certaines universitaires françaises, se disant féministes, lesbiennes ou queer, passent leur temps à nous anthropologiser. Et là, je plagie un petit peu une membre de la coordination femmes noires. Juste un petit rappel, la coordination des femmes noires était une coordination qui a été créée en 1977. Et déjà, à cette époque, ces membres-là parlaient justement de féministes blanches qui les avaient intégrées, effectivement, bon, dans le mouvement, mais qui étaient toujours là à se poser mille et une questions à leurs propos, à leur identité, sans pour autant prendre en compte leurs revendications spécifique. Autre élément aussi, c'est que très souvent, il existe dans les rencontres lesbiennes, il arrive parfois que les débats questionnent le féminisme of color, tout en ignorant les apports théoriques et activistes auxquels les lesbiennes of color en France ont contribué. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes nous qui avons cofondé le groupe Pollox avions eu déjà nos expériences dans le milieu féministe lesbien ou dans le milieu LGBT. C'est-à-dire que On vient pas comme ça. On a mené des actions, on a créé des groupes, on a initié des projets, etc. Et c'est vrai que quand, par exemple, Cinéfable, qui est donc un très grand, le plus, enfin, qui est une rencontre de cinéma lesbien, féministe lesbien, pose la question, je pense que c'était en 2010, pose la question de « existe-t-il un féminisme noir ?» En France, il est évident qu'à partir de là, je pense que toute l'existence même de l'Ox y répond, parce que et c'était en plus autour d'une très grande universitaire qui a pignon sur rue, hein, si j'ose dire, se définissant queer. C'est vrai qu'on s'est posé la question. Je veux dire, arriver à ce point en 2010, alors que depuis les années 70, il y a eu quand même des initiatives de la part de groupes non mixtes, femmes noires, le groupe 10 novembre, Madivine, Saharia, NDS, enfin je reviendrai un petit peu plus loin, et LDR, lesbiennes contre discrimination et le racisme, arriver en 2010 et se poser la question dans le cadre du festival, en sachant que le festival Cinéfable avait, en 2007, me semble-t-il, on avait, nous, LDR, parce que j'avais créé le groupe LDR, lesbiennes contre les discriminations et le racisme, et qu'on avait initié un débat sur justement la déconstruction de l'exotisme et du racisme à travers des films qui sont a priori très très beaux, des films lesbiens très très beaux, mais où on dénonçait effectivement tout ce qui était rapport au pouvoir, rapport au classisme, à la classe, et puis le racisme et l'exotisme. Donc c'était un débat qui était dans les annales, en tout cas du festival Cinéfable, et voici que les festivalières initient un débat sur existe-t-il un féminisme noir ? Ils ne sont pas allés jusqu'à dire un lesbianisme noir, mais existe-t-il un féminisme noir ? Il est évident qu'à partir de ce moment-là, c'était pour nous quelque chose de très grave, parce que là, encore une fois, ce genre de comportement, mais je peux en citer plusieurs, hein, ce genre de comportement montre qu'il y a une occultation en fait, de la mémoire même de l'activisme et du militantisme féministe et du militantisme féministe lesbien of color. Et toute cette expérience contradictoire d'inclusion et d'exclusion renforce, nous semble-t-il, durablement un processus d'invisibilisation des expressions lesbiennes of color et confirme que les milieux féministes et LGBT ne sont pas exempts de reproduire les schémas d'oppression. Quand tout à l'heure je vous disais qu'il y avait deux idées qui avaient animé et inspiré la création du groupe LOX, il n'y avait pas simplement ce constat. Je veux dire, on est toutes des activistes, on est effectivement, on est aussi des actrices à part entière, et qu'on voulait qu'à un moment donné, réagir. Pas seulement rester sur un constat, mais réagir en inventant, en recréant et en créant notre propre espace. Et parmi tous ces éléments qui anime aussi le modus operandi, ou en tout cas la vie des LOX, il y a le fait de rendre visibles des expressions lesbiennes of color et rompre avec une référence féministe et lesbienne unique, unicolore, uniforme, pour ne pas dire blanche, dominante, car nous souhaitions exister à part entière, actrice de nos luttes, productrice de nos analyses, indépendante, bref, une manière de décoloniser le lesbianisme, et je me permets là de plagier Bell Hooks, qui, elle, parlait de décoloniser le féminisme. De fait, le groupe LOX s'inscrit dans une démarche intellectuelle, politique, activiste, solidaire et internationale, fort des connaissances individuelles et collectives au service d'une position lesbienne of color antiraciste, anticapitaliste, antisexiste, antilesbophobe, anti-intégrisme et anti-impérialisme, évoluant dans un espace que j'appelle un espace aux 3S, sera safe et secure, autrement dit, ni prise de tête, ni conflit. Bref, à l'intérieur de ce groupe LOX et de cet espace d'expression lesbienne of color, il nous fallait repenser la résistance au racisme intégré, au racisme d'État, reconfigurer les mobilisations, refuser tout féminisme, lesbianisme hégémonique, dénoncer la blanchité qui se diffuse dans les modes de pensée, d'action, d'expression, de posture de fonctionnement supposé immuable et universel. Mais aussi, construire notre propre territoire et garantir une autonomie organisationnelle et théorique. Dans ce cadre-là, nous nous efforçons de rendre accessibles d'autres féministes et lesbiennes qui enrichissent le féminisme et qui nous inspirent par leur approche déconstructiviste sur des questions qui nous touchent de près. Alors, il est évident que cette particularité qu'on a, c'est-à-dire ces différentes identités, on est effectivement d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, de l'océan Indien, bref, on est très liés, et c'était une des choses aussi qui a animé l'Ox, c'est qu'on est très attachés à nos pays d'origine. La France est juste un passage, parce qu'effectivement, en tant que lesbienne, et en tant que lesbienne, on revendique effectivement un lesbianisme comme une expression, comme une liberté d'expression politique, donc une dissidence sexuelle, et qu'à partir de ce moment-là, on est en France parce qu'on arrive à vivre librement cette sexualité, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette idée de revenir un jour dans le pays d'origine, mais en tout cas, s'intéresser bien évidemment étroitement à l'évolution dans le pays d'origine. Et là se passent d'autres expressions féministes. Je pense notamment, si vous avez l'occasion d'aller sur le site LOX, vous allez voir qu'il y a une rubrique qui s'appelle Nos déesses. Alors effectivement, loin de moi en tout cas l'idée de spiritualiser cette rubrique. Néanmoins, c'était une rubrique pour un petit peu parler de ces féministes et de ces lesbiennes dont on parle très peu, ou qu'on connaît peut-être un peu, mais que nous, LOX, nous exploitons fortement. Et je donne juste un exemple. Je pense notamment à Fatma Mernassi, donc une très grande sociologue marocaine, et qui a mené un très très grand travail de déconstruction du discours sur la place des femmes dans l'islam, un discours très 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 radical. Donc voilà, ça nous permet aussi de mettre en évidence des positions politiques qui nous inspirent. Je pense aussi, par exemple, aux Sari Rose. Les Sari Rose, qui sont un groupe d'indiennes, qui s'est constitué pour lutter contre les violences faites aux femmes, et qui ont comme approche donc, l'autodéfense féministe. Ça aussi, ce sont des références qui nous parlent. Donc, vous voyez qu'on déplace le cadre référentiel, culturel, politique, et puis on déplace aussi l'épistémologie, parce qu'on va chercher des discours qui nous apportent beaucoup, et je pense notamment à Asma Barlas, mais bon, il y a plusieurs, je pense notamment à Kitch Shields, qui a été la première lesbienne of color qui a créé le groupe of color en Hollande, et j'en passe des exemples comme ça, on en a beaucoup. Donc voilà ce que nous permet aussi l'espace d'expression lesbienne of color. En conclusion, je dirais que les milieux féministes et LGBT n'ont jamais réellement pris conscience de ces enjeux, en maintenant ainsi un désintérêt pour ces questions et ne tenant pas compte de la diversité lesbienne. Pour autant, je pense que quand on est activiste, on a cette responsabilité politique, effectivement, puisqu'on contribue à changer la société, à tout le moins à contribuer dans le vivre ensemble. Il faut, je pense, reconnaître qu'il y a des choses qui évoluent. Et je vais plus les développer sur l'affiche. Mais en 2010, à l'occasion des 40 ans du MLF, du Mouvement de libération des femmes, il y a eu une très 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 importante initiative qui a été menée par les archives lesbiennes de la MDF, de la Maison des femmes de Paris, et qui a créé une revue de presse dans laquelle elle a compulsé toute la presse féministe, activiste, lesbienne durant les 40 ans du mouvement de libération des femmes. Et là, toutes sont ressorties. Sur la base d'affiches, sur la base d'interviews, sur la base d'écrits théoriques, eh bien, est ressortie toute la pensée et l'activisme of color, à commencer par les femmes en noir, à commencer par, par le groupe du Cinovent, par les groupes des nord-africaines. Donc ça retrace, c'est une revue qui est vraiment extraordinaire et qui retrace d'une manière visible toutes ces différentes actions et ces différentes initiatives. Et pour une fois, cette revue donc, n'a pas occulté et n'a pas minoré l'apport théorique et activiste de ces groupes. Le troisième point porte sur cette affiche maudite de l'inter-LGBT, CRU QV 2011. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'essaie un petit peu de la décrire. Il s'agit donc d'une affiche sur laquelle se positionnait un coq très fier, avec une crête rouge et puis une espèce de boa rouge sur fond bleu, et avec un slogan qui disait « En 2011, je marche et en 2012, je vote pour l'égalité ». Donc cette affiche a été rendue fièrement visible, donc a été lancée en tout cas officiellement le 11 avril, et le 12 avril, deux initiatives ont mené des actions pour demander purement et simplement son retrait. Je rends hommage là à la page Facebook qui a été créée à cette initiative. Je ne sais pas si dans la salle se trouvent des personnes ou des membres de cette page pour s'exprimer, pour un petit peu étayer ce que je vais dire. Mais voilà, qui avait dénoncé le fait excluant et raciste de l'affiche. Et puis, il y a eu l'initiative des LOX. On a publié un texte qui s'intitulait « Basta, le racisme et la xénophobie au nom de la lutte contre l'homophobie ». Et c'était un article dans lequel, effectivement, nous avions dénoncé le caractère raciste, sexiste, et n'ayant pas peur des mots, bien évidemment, pétiniste, parce qu'effectivement, c'était un symbole hautement privilégié, hautement utilisé par le système vichiste. Alors, ce qui est intéressant à remarquer avec à observer en tout cas avec toute l'action et toute la dynamique qu'il y a eu autour du retrait de la de l'affiche, c'est que à aucun moment dans le retrait, dans l'abandon de l'affiche et dans le discours de Nicolas Gouguin, qui est donc le porte-parole de l'inter-LGBT, il n'a été question justement de ce caractère raciste, de ce caractère excluant, de ce caractère sexiste. À tout le moins, ils ont osé concéder que parce que le refuge, qui est donc une association qui lutte contre la stigmatisation des jeunes homos, en tout cas qui lutte contre l'homophobie, parce que le refuge s'est ému, qu'au final, le 19 juin, il y a eu le retrait définitif de l'affiche. Mais à aucun moment, on a évoqué au fait toute l'analyse politique qui a été menée, notamment par les lesbiennes of color. Non pas que je veuille tirer vers moi, c'est pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, il faut être effectivement honnête dans l'activisme et reconnaître que même si on a des divergences dans l'analyse, on peut reconnaître quand même que ce sont des analyses qui puissent être entendues. Juste, je vous donne ce qu'avait dit je vous cite ce qu'avait dit le refuge. Au moment où il y a eu l'abandon du... Alors, il disait... Oui, alors, avant de vous lire ce que disait le refuge, je vais quand même vous lire ce que pensait l'inter-LGBT en lançant cette affiche. Il disait que, et je le cite, derrière cette affiche, l'intérêt, c'est d'interpeller le public beaucoup plus largement que le public LGBT ou associatif. Hein, elles ont tout réussi. Et quant au refuge, il disait que un grand pas en arrière de l'association regrette dans un communiqué que les personnes homosexuelles soient stigmatisées et réduites à des volatiles affublés de boa. Plus de 30 ans après la sortie du film, La cage aux folles, les clichés sont toujours véhiculés et atteignent leur paroxysme cette année. Bref, le psychologue passe un temps infini à déconstruire ces clichés intériorisés par les jeunes qui refusent leur homosexualité et sont dans un déni d'eux-mêmes. Autrement dit, le seul problème qu'avait vu le refuge, et tout à l'heure quand je disais justement qu'il y avait une hiérarchie des luttes, homophobie et lesbophobie, mais pas autre chose, alors que nous, on est dans une approche intersectionnelle. Voilà ce qu'avait vu le refuge. Et je dirais même pire, parce que le refuge s'est contenté en félicitant l'inter LGBT en disant « Ce n'est pas une victoire pour notre association. Nous ne sommes jamais placés en opposition par rapport au collectif. Mais c'est bien de l'avoir retiré. » Et alors... Je voudrais quand même aussi... Je voudrais aussi rappeler que cette affiche, donc, a été quand même faite, réalisée avec une tendance politique qui est très connue, et notamment socialiste, donc de gauche, et que son président, donc, le président d'Homosexualité et Socialisme, a dit, je le cite, pour défendre cette affiche, « Aujourd'hui, alors que le mouvement LGBT se propose d'utiliser le coq, symbole de la nation, ce choix provoque la stupeur de beaucoup de militants. Doit-on comprendre que le Front National a gagné une bataille ?» Or, nous, l'Ox, nous disons qu'à tout détournement de symbole, il y a une limite et qu'on ne peut pas rire et qu'on ne peut pas détourner n'importe quoi. Autre chose encore, donc le 20 avril, c'est-à-dire que l'affiche est officiellement abandonnée, Nicolas Gouguin, porte-parole de l'inter-LGBT, dit « Il est ridicule et infondé, il faut lire l'affiche au second degré. » Donc on est bêtes, nous les LOX, hein, ou les antiracistes, donc on n'a rien vu, on n'a pas d'humour, on est trop sérieuse. Enfin bon. Et donc, il rappelle qu'on ne défile pas derrière une affiche et revendique donc le second degré. On est parti d'une caricature de l'État nationaliste. Ce coq n'était pas censé représenter tous les LGBT. Ah bon ? Et renchérit en disant, le coq, d'abord, c'est un symbole de la France qu'on a décidé de détourner. Le coq n'est pas la propriété de l'extrême droite. Le boa, c'est un clin d'œil, une forme de transgression, de travestissement. On ne peut pas résumer tout le monde en une affiche. Le but, c'est d'alerter sur notre mot d'ordre. Pour l'égalité 2011, je marche. 2012, je vote. Et je termine en disant qu'il a... On connaît bien sûr l'arrogance de la France, hein, surtout dans le traitement post-colonial, qui ne reconnaît toujours pas ses responsabilités coloniale et post-coloniale, puisque effectivement les politiques d'immigration sont une conséquence de cette politique post-coloniale. Mais alors l'arrogance de Nicolas Gauguin est tout autant, puisqu'il se permet quand même de dire que l'objectif, c'est d'abord d'interpeller, d'attirer l'attention, et sur ce point, on peut dire qu'on a réussi, ironise-t-il. Bref, une fois que l'affiche a été abandonnée, on a essayé de faire un tour de toutes les presses qui a reporté l'abandon de l'affiche. Et on a constaté effectivement que tout ou presque se contentait de réduire l'abandon de l'affiche, en tout cas la cause, la raison de l'abandon de l'affiche, juste à la stigmatisation des jeunes homos, donc à la lutte contre l'homophobie, occultant bien évidemment toutes les positions et les analyses qui ont été données, entre autres, par les lesbiennes of color. Et pire encore, on a reçu, il y a eu un texte qui a été écrit par la présidente de, du CGL, du Centre gay et lesbien de Paris, et qui l'a intitulé « Les ayatollahs de l'intérieur », autrement dit, et qui dénonçait ceux et celles qui avaient initié des actions pour que cette affiche soit abandonnée, en nous traitant d'islamo-gauchistes, de violentes, de racistes, d'extrémistes. On ne sait pas dans quelle arène on joue. On est complètement apeuré. Un texte donc qu'elle a publié et qui a été donc diffusé bien évidemment par Tétu. Et que les LOCS se sont donné bien sûr le droit de répondre en écrivant un texte, en le diffusant, en le publiant et en l'intitulant « Les lesbiennes of color sont politiquement incorrectes ». Donc il faut dire aussi qu'on a eu des réactions. Alors il faut reconnaître que le texte a été largement diffusé. On a eu effectivement des encouragements, même des recrues après. Mais c'est vrai que ça a posé quand même un vrai problème politique, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des difficultés à déconstruire le concept de la blanchité et puis à reconnaître l'intersectionnalité de la lutte, quoi, des luttes of color et des luttes contre les différents rapports sociaux, rapports de pouvoir. Je rappelle aussi que des lesbiennes françaises, des lesbiennes blanches ont aussi contesté cette affiche, ont contesté aussi le texte « Les ayatollahs de l'intérieur en interpellant l'inter-LGBT, puis en interpellant aussi la présidente du CGL sur le fait qu'il fallait reconnaître qu'il s'agissait là d'une affiche effectivement excluante et raciste, et que son texte « Les ayatollahs de l'intérieur » était tout autant raciste, et même alors qu'elle est de gauche, et même... prenez au fait, utilisez les mêmes modes de rhétorique, la même rhétorique que la droite ou que l'extrême droite, parce qu'elle a tendance à islamiser, effectivement, parler d'ayatollah de l'intérieur. Quand on sait ce que c'est les ayatollahs, bien évidemment, là, c'était bien ficelé. Je vais conclure en disant que même si les milieux LGBT et féministes refusent de questionner la blanchité et refusent de reconnaître l'évidence de l'intersectionnalité des rapports sociaux, sexisme, racisme et classisme, nous pensons possible et nécessaire d'initier ou de rejoindre des luttes collectives avec les lesbiennes et féministes françaises dans le cadre d'alliances stratégiques, ponctuelles et à nos conditions. Que les choses soient claires. Les alliances sont possibles, mais encore faut-il effectivement respecter les règles de jeu des unes et des autres. En sachant que les LOCS sont toujours à l'initiative des actions et ne se laissent pas guider, car il est important pour nous de créer nos propres opportunités ou de les saisir quand bon nous semble. Ainsi, nous maîtrisons les tenants et les aboutissants de nos actions, les modes d'organisation, ce qui est un impératif à notre objectif d'autonomie et à notre objectif de visibilisation de nos luttes et discours. Et puis, j'ai tendance, c'est vrai, quand je conclue une intervention sur les LOCS, de effectivement dédicacer une mémoire, parce que le groupe LOCS, encore une fois, est un groupe qui revendique toute cette mémoire, comme je vous avais parlé tout à l'heure, des femmes noires, des femmes maghrébines, donc de toute cette mouvance-là. On n'a pas été créé comme ça. Je pense qu'il faut aussi reconnaître que nous avons profité des apports de nos prédécesseuses. Et permettez-moi donc de dédicacer cette conclusion à la coordination des femmes noires en France par Awatiam en 1977, à Madivine, parmi les premiers groupes lesbiens afro-antillais, les NDS et les Saharia, groupe franco-algérienne de lesbiennes maghrébines entre la France et le Maghreb, le groupe du 6 novembre par des lesbiennes politiques internationales et le groupe LDR lesbiennes contre les discriminations et le racisme, qui était lui non mixte mais fondé par des Africaines. Car être lesbienne, féministe, politique of color, c'est avoir l'honnêteté de revendiquer cette mémoire en reconnaissant à ces groupes qui ont porté des analyses et des réflexions sur l'invisibilité de la question of color, qui ont questionné le racisme, le néocolonialisme, qui ont pensé à un espace à soi comme nous. Merci.